sur les docks avec vous, Irène Malianenko.
Oui, Hervé Gardette, c'est la dernière étape de notre traversée du monde de ceux que Michel Pomared appelle voleurs voyous. Après les témoignages de Michel Lepage, Alain Cayol, Claude Lucas, ceux des femmes, sœurs et filles de voyous, c'est aujourd'hui une impossibilité de documentariste qui se réalise. Si à la fin de chaque enregistrement s'échangent des promesses, car l'amitié est née, bien des questions ont été laissées de côté, l'envie de se revoir est forte. La loi, c'est que ces au revoir sont en fait des adieux.
Est-ce qu'aujourd'hui, Irène, c'est l'inverse qui se produit avec ces retrouvailles avec Saïd Remli?
Exactement. En 1984, il avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement. À Montluc, il tente de s'évader. L'opération se solde par le décès d'un des surveillants. Saïd Remli est condamné à perpétuité et finit par sortir le 1er juin 2004. C'est le 10 mai 2005 que nous diffusions dans Radio Libre son portrait. Et dans son cas, le « à bientôt » s'est transformé en réalité et nous le retrouvons en compagnie de sa femme, Marcel.
Alors Marcel, qu'est-ce que tu as dans la main ?
La photo du mariage. Le 12 mai 2012. 3 ans. 2012.
Donc toi, tu es là ?
Oui, Saïd. Monseigneur Jacques Gaillot, Bertrand Tavernier, Philippe Zoumeroff, qui étaient nos témoins.
Écoutez, c'est un honneur pour moi d'aller aider au bonheur de quelqu'un qui se marie. Ça me rend heureux, vous voyez. J'aime que des gens soient heureux. Et donc ça s'est fait dans la nature, vraiment, c'était beau. Avec les gens qui étaient là, qui voulaient une bénédiction à tout prix, je dis, mais bien sûr. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvés, il y avait un grand arbre, on était là, ensemble. Avant la fête proprement dite qui allait commencer. Et puis, eh bien, j'ai dit l'importance quand deux êtres humains veulent vivre ensemble, s'unir pour mener leur vie commune, c'est beau. Et donc, je les ai bénis.
Pour Saïd, c'était une journée de joie. Je crois qu'il avait fait avec des moyens extrêmement limités un mariage où je me suis, disons, distrait. Beaucoup plus que des mariages beaucoup plus importants où je me suis parfaitement ennuyé.
C'est une journée très très chaleureuse, vraiment émouvante. Je me souviens aussi d'une rencontre avec une policière qui était mais absolument passionnante. Il y avait un public très hétéroclite, très amical. On se serait cru dans un film français des années 30.
Voleur, voyou, Saïd. 10 ans après, Michel Pomared, Jean-Philippe Navarre.
Mais est-ce que le passé de Saïd, il est vraiment passé ?
Je crois pas. Il y a encore des moments où il est carrément dans son passé. Tu vois rien qu'à regarder ce qu'il regarde à la télé, les films. Tout le temps, il a un penchant pour les policiers, les trucs sur la mafia. Voilà, ça, c'est. Je sais pas, quelquefois, ça le replonge en un peu même. Ça se voit tout de suite, hein. Voilà. Mais je pense qu'il vivra avec ça encore longtemps.
Saïd, aujourd'hui, on est le 25 octobre 2004, on est à Châteauroux. Est-ce que vous pourriez me raconter l'heure d'avant, avant qu'on se rende compte qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?
Eh bien, l'heure d'avant, quand on s'est contacté au téléphone, j'étais dans le bureau d'un CIP, c'est-à-dire un conseiller d'insertion et de probation. Et c'est la personne qui est chargée du suivi des libérés conditionnels. Donc, c'est mon cas. Et là, je lui rendais compte des démarches que j'ai faites depuis un mois, date du dernier entretien. Pour savoir comment j'ai évolué, si j'ai trouvé un travail, enfin où j'en suis actuellement dans ma situation. Quoi. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire parce que j'ai pas de travail. Parce que j'avais trouvé un travail qu'on m'a refusé, c'est un CDI, donc un limité du bâtiment, qu'un juge d'application des peines a trouvé utile, enfin a trouvé bon de refuser. Et donc en ce moment, je suis dans une situation où je suis à la recherche d'un emploi dans les métiers du son, tout en sachant que de sur la région centre, je ne trouverai jamais de travail. Parce que j'ai fait depuis ma sortie, c'est-à-dire le 1er juin dernier, j'ai travaillé, enfin j'ai aidé des marchés, que ce soit aussi bien à Paris, sur la région parisienne, sur la région lyonnaise, tout ce qui existe, enfin, dans les métiers du son, que ce soit au niveau du cinéma, de la télévision, du théâtre, et il n'y a rien.
Si on parle un tout petit peu des liens familiaux pendant l'incarcération, est-ce que ça a été maintenu? Est-ce que vous vous êtes senti un moment seul? Comment ça s'est construit au fil de toutes ces années en prison?
Mais au niveau des liens familiaux, c'est un peu particulier parce que je suis rentré en prison pour une petite peine, une peine de 5 ans. J'ai tenté de m'évader et au cours de la tentative d'évasion, un surveillant est mort donc. Et quand je me suis rendu compte de ce que ça signifiait, pas seulement au niveau de mon acte, mais au niveau des répercussions ensuite, j'ai préféré éloigner tous mes proches de la vie que j'allais mener pendant toutes ces années. Donc j'ai coupé les liens avec mes parents, avec la jeune femme à qui j'étais, avec mes amis et mes frères, avec tout le monde.
Saïd, on vient de réécouter le début d'un long entretien qu'on avait commencé ensemble le 25 octobre 2004, quelques mois après ta sortie de 20 ans de prison, c'était le 1er juin 2004. Qu'est-ce que tu ressens à l'écoute de ce premier échange où à l'époque je te vous voyais, puisque c'était une des premières fois que je te voyais?
Plus de 10 ans sont passés quand même. Je pensais sortir d'un monde où la folie était plus ou moins omniprésente et où je me disais, ben, je suis sauvé maintenant, je retrouvais des gens qui sont à peu près normaux, quoi. Je me disais aussi que bon, la plus grosse partie de ma vie, la plus dure, était passée. Et je me suis rendu compte depuis 10 ans là que ben, la prison n'est pas terminée. J'étais condamné à perpétuité, je suis sorti en conditionnel, ma conditionnelle est terminée. Mais il n'empêche que je suis encore et toujours en prison. Et je le saurai, maintenant je le sais, jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'il ne suffit pas de sortir de prison pour être libéré vraiment, quoi. Il y a le regard des autres, des gens. Il y a la recherche de travail. Vous avez fait quoi pendant ces 20 dernières années ?
Après être sorti de prison, il est compliqué de se réintégrer dans la vie normale. En fait, c'est compliqué d'être embauché par quelqu'un déjà. Donc la seule possibilité que vous avez quand vous avez ce bagage-là, c'est soit de créer de votre société, votre restaurant comme il a fait, soit vraiment de galérer pour trouver un travail. Parce que quand vous recevez plein de CV aujourd'hui, vous n'allez pas forcément embaucher le mec qui a fait 20 ans de prison. Hein. Faut être honnête. Alors je m'appelle donc Yves Lachkar et j'habite dans un petit village à quelques kilomètres d'une ville qui s'appelle Brignoles. Donc là, on se trouve dans une ZAC qui s'appelle la ZAC de Nicopolis, qui est une belle petite ZAC parce que vous voyez la colline en face. Et c'est un bel endroit pour travailler, mais qui a eu un grand développement commercial d'activité depuis 10 ans. Et j'habite ici depuis 10 ans. Voilà.
Qu'est-ce que vous venez faire dans l'histoire de Saïd ?
Saïd, j'ai rencontré un peu bah, par hasard, même si je ne crois pas au hasard, mais j'ai rencontré par l'intermédiaire de connaissances. C'est un gars qui cherchait du travail à la base. Et j'avais une personne dans mon équipe qui partait en congé maternité. Donc je l'embauche parce que c'est un type qui est intelligent, que je sens quelque chose et qui veut travailler. Après, ce que Saïd a vécu dans l'embauche de Saïd, ça intervient pas dans mon jugement. Je l'embauche pas par pitié, je l'embauche pas par qu'il ait fait quoi que ce soit avant. Bon, c'est sûr, il n'est pas violeur, il n'est pas. C'est un type qui a un parcours de vie étonnant. Je suis né en banlieue, mes parents ont divorcé, j'étais assez jeune et si j'avais pas eu mes grands-parents qui s'occupaient de moi, bah, j'aurais peut-être pu avoir un parcours à la Saïd qui a pas eu beaucoup de chance au départ à la naissance. Donc derrière, mon chemin, il a été encadré par des grands-parents, ma mère était malade, etc. Mais il a été encadré et j'ai pu faire des études et j'ai évolué vers un bon travail, vers des bonnes études. Lui, c'est un mec qui a de la volonté, mais je sais pas si c'est chance ou pas de chance, mais il avait des obstacles qui se dressaient à chaque fois. Votre vie, elle peut prendre un chemin différent à chaque moment. Donc lui, elle a pris beaucoup de mauvais chemins.
L'enfance, Saïd, c'était comment ?
Mais l'enfance, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'habitais plus ou moins chez mes parents. J'ai été passé à différentes reprises dans des familles d'accueil parce qu'on était 4 frères. Tant qu'on était que 2 frères, mes parents pouvaient gérer, mais dès qu'on était 4, ça devenait un peu compliqué. Donc ils avaient placé les 2 plus vieux dans des familles d'accueil. Puis à l'âge de 8 ans, quand j'étais encore chez mes parents, comme je suis originaire d'un père algérien, d'une mère française, et qu'ils avaient des difficultés à assumer leurs différences. Donc nous, on vivait ça par des engueulades perpétuelles entre eux, des trucs un peu débiles. Ce qui fait qu'un jour, j'en ai eu un peu marre. Et comme à l'époque, il y avait la télévision, c'est la première chaîne, le RTF, en noir et blanc, et je voyais des choses qui me faisaient rêver, comme des bateaux qui partaient en Amérique. Je me suis dit, bon, ben, je vais partir en Amérique, ça va, c'est bien, il y a des Indiens. Des trucs un peu débiles, mais c'est trucs de monde, quoi. Et je suis parti à l'âge de 8 ans, j'ai pris le train. Je suis arrivé à Marseille, où je suis resté 3 semaines, en vivant d'expédients, c'est-à-dire en volant plus ou moins sur les marchés, de quoi me nourrir, jusqu'au moment où les flics m'ont arrêté, m'ont mis dans un foyer, m'ont ramené à Lyon. Et puis après, ça a été tout le temps des placements dans des foyers, des maisons de correction, jusqu'à l'âge de 15 ans, où on m'avait obligé à suivre une formation de surveiller, ce qui n'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais continuer les études. Mais comme j'étais dans un foyer tenu par des curés, qu'ils avaient une idée très spéciale des gens un peu différents, ils avaient décidé de me raser la tête, ainsi que celle de mon frère, de m'obliger à suivre une formation de surveiller plutôt que de continuer dans les études. Et bon, comme j'ai fait une formation de surveiller, je me suis dit autant que ça servait à quelque chose, et c'est là que je suis parti avec le coffre-fort du foyer. Voilà. Et donc c'est là où j'ai commencé à vivre un peu dans la délinquance, puis après ça a empiré pour devenir ce que c'est devenu, quoi.
Votre vie, elle peut prendre un chemin différent à chaque moment. Donc lui, elle a pris beaucoup de mauvais chemins. Même si à la fin, vous pouvez vous demander, vu ce qu'il fait en prison et vu son parcours de vie et vu les gens qu'il rencontre derrière et vu ses discours à l'Assemblée nationale et vu tout ce qu'il fait derrière, s'il n'était pas utile à un truc dans sa vie. Et sa vie, elle n'est pas terminée en plus.
Qu'est-ce qu'il fait concrètement dans votre entreprise ?
Aujourd'hui, là, il est magasinier, c'est-à-dire magasinier préparateur de commandes. Il colle aussi des panneaux de présentation pour les céramiques que je fais. Est-ce que ça correspond à ce qu'il a fait ou ce qu'il sait faire ? C'est pas vraiment son idéal de job, je pense, mais il est toujours tranquille, discret, il s'intègre bien. C'est quelqu'un qui aime apprendre et qui aime toucher à beaucoup de choses, quoi.
Yves, Saïd est sorti depuis plus de 10 ans maintenant, puisqu'il est sorti le 1er juin 2004. Est-ce que vous sentez encore que la prison a une empreinte sur lui ?
Ouais. Il y a une image, je vais vous dire. Quand je le vois le midi, là, dehors, devant mon dépôt, sur le banc, en plein soleil, je pense qu'il a manqué de lumière pendant beaucoup d'années, donc il a vraiment besoin, plus que les autres, d'être dehors et d'être au soleil. Il a besoin de moments de repos où il discute pas. Il est touchant quand il est comme ça.
Est-ce qu'à un moment, dans ces dernières années, ou même depuis que vous êtes sorti, peut-être, vous avez connu la peur ?
Il y a une époque, j'avais peur de mourir, parce que mon chef d'inculpation, les conditions de détention que j'ai connues pendant un certain nombre d'années ont été extrêmement dures. Donc mon principal souci, c'était de pouvoir survivre, la peur de la mort, si on peut dire. Et ensuite, quelques années avant de sortir, je me suis dit, où j'étais dans la situation où j'allais peut-être pouvoir éventuellement retrouver la liberté. Là, c'était la peur de pouvoir vivre normalement, quoi, de réussir à vivre.
Est-ce que vous êtes sorti de prison, Saïd ?
Moi, je pense que je suis sorti de prison avant d'être sorti, déjà. Ces dernières années, je pense que je suis sorti de prison bien avant d'être libéré, quoi. À la différence de tous ceux qui sortent, qui sont encore en prison pendant des années, moi je crois que j'ai fait le chemin inverse. Parce que les dernières années, j'ai travaillé plus sur des projets extérieurs, sur une participation plus ou moins active dans la vie de la collectivité. Donc quelque part, à l'époque, j'étais déjà plus en prison. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai réussi à en sortir, bizarrement.
Bon, je me livre à vous. Jacques Gaillot, tout simplement, est-ce que vous pourriez me raconter votre première rencontre avec Saïd ?
Eh bien, écoutez, c'était à la prison, à la centrale, je crois que c'était de Moulins. Et j'allais voir un autre prisonnier basque que je connaissais bien, qui est libéré aujourd'hui aussi, et qui s'appelle Gabi Mueska. Et donc, il avait organisé une réunion à la prison, et il était là, Saïd, et puis il m'a dit, mais je travaille en prison, hein, je prépare quelque chose, etc., etc. J'avais été impressionné par tout ce qu'il faisait dans cette prison. Vraiment, il était pris par le désir d'accuser, de se dire, voilà, on me met en prison, je veux me défendre, je fais du droit, j'avance dans le droit, etc. Je crois que quelqu'un qui a mené cette aventure difficile d'une vie, et avec des années de prison, ils ont besoin de réussite. Ils ont besoin de dire aux autres, voilà, je suis capable de... Donc, ça reste fragile, mais il faut les soutenir. Maintenant qu'il est dans le sud, on ne se voit plus, que voulez-vous, hein. Mais il m'écrit, il me téléphone, il me dit, je suis Saïd. Bon, oui.
Et le fait qu'il habite à Besse, ironie de l'histoire.
Besse, c'est la ville d'un monsieur qui s'appelait le Gaspard de Besse, qui était le voleur. Alors, c'est marrant l'image, parce que c'était le voleur qui détroussait les riches pour donner aux pauvres. Saïd, ça pourrait être un type qui allait en prison pour défendre certaines causes pour les gens qui étaient en prison, pour qu'ils vivent mieux. Parce que vous pouvez... Moi, je pense... C'est juste d'être condamné à une peine de prison quand vous faites quelque chose de mal, hein. Mais après, derrière, la prison, ça ne doit pas non plus vous massacrer quelqu'un. Vous ne devez pas être puni, harcelé. Ça doit vous donner une punition et vous faire comprendre les choses. Donc, Saïd, s'il est passé en prison, pour moi, c'est pour défendre beaucoup de choses pour les gens qui sont là et peut-être faire évoluer la chose.
Voilà, c'est une petite ruelle, hein, un petit village du Var, avec des murs en pierre. Avec beaucoup de vertures, de fleurs. Un ciel apaisant, quoi. C'est... Tout ce que j'ai connu, c'est du béton. Du béton et du béton. Il m'est même arrivé un jour où j'étais en promenade, et les gardiens me regardaient comme ça, ils me disaient, t'as vu, ça c'est la vue que tu auras pendant des années et des années. Et je dis, ouais, il y a une fissure, il y a un peu de verdure qui apparaît.
Donc tu vis dans un village dont le héros principal, et on le voit sur...
Partout.
Les bars, les commerces, c'est un bandit de grand chemin. Et tu loues une maison à quelqu'un qui fait quoi dans la vie ?
Elle est surveillante pénitentiaire à la prison de la Farlène. Donc quand j'ai appris ce petit détail, j'ai expliqué à cette dame, elle a vu ça avec son mari, elle m'a rappelé aussitôt, 10 minutes après, on dit écoutez, M. Remly, vous en êtes sorti, semble-t-il, ça se passe plutôt bien pour vous, donc pour ce qui nous concerne, il n'y a aucun problème, nous sommes assez contents de vous avoir comme locataire.
Bertrand Tavernier, est-ce que vous pourriez me raconter les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré Saïd ?
J'ai toujours eu un certain nombre de rapports avec les mouvements, les associations qui travaillent dans les prisons. J'ai présenté des films à plusieurs reprises, j'ai animé des discussions, j'ai patronné avec Arte des concours de scénarios. Et je crois que j'avais été appelé par quelqu'un qui avait travaillé sur le cas de Saïd et qui me disait que ce serait bien que je le contacte, que ça en valait la peine, que c'était quelqu'un qui avait un parcours tout à fait étonnant et qu'il avait des tas de choses à dire. Donc j'ai pris contact comme ça par, disons, des tiers qui m'ont amené vers Saïd, à qui j'ai écrit. C'était pas du tout, je ne préparais aucun film sur les prisons, c'était en dehors de tout travail professionnel. Et on s'est écrit, parfois je lui ai fait envoyer des livres, ça même, je me souviens, je crois que je lui avais fait envoyer un livre de Victor Hugo qui a été bloqué. Venait presque un cas de censure, Victor Hugo, dans la prison. Et puis on s'était rencontrés, finalement.
Quand tu étais en prison, Saïd, tu as fait beaucoup de sport.
Ouais.
Est-ce que quand tu es sorti, le sport, c'était connoté prison et donc tu as fait moins de sport ou tu as arrêté ?
Bah, c'est carrément ça. Même quand j'étais incarcéré, même pendant toute la période où j'étais incarcéré, je lisais beaucoup. C'était un truc de fou, hein. Surtout quand j'étais à l'isolement, je lisais au minimum un livre par jour. Il m'arrivait d'en lire trois en 2 jours. Et puis je sortis un livre, quelque part, ça me ramène là-bas, enfin inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien. Et le sport, c'est pareil, mais je m'y remettre quand même. Là, aujourd'hui, je travaille, même s'il y a encore quelques problèmes, je les règle rapidement. Et... ouais, la remise en condition, ça fait partie de la vie, quoi. C'est clair.
Tu fais l'hawaïen, le cigare.
Je suis
Michel.
Cécile. C'est le téléphone.
Oui, c'est ça.
Quand tu vas courir, tu me dis, moi j'aimerais bien
reprendre la course.
Ouais.
Si tu veux. Pas de soucis.
Tu veux courir?
Ah ouais, moi il y a longtemps que
j'ai pas. Voilà, comme ça, voilà.
Ouais. Ça fait 10 piges que je cours. Ah, il va se fâcher. Il va se fâcher. Attention.
Ils sont encore des dents, mais attention.
Ah, on se fait des couleurs. Et donc, ils viennent, disons, en arrière. Premier jour de formation à Issoudun, gestion de production. Bon, Saïd, son premier jour de formation, qu'est-ce que t'as à dire? T'en es où aujourd'hui? Je dis, viens avec moi. On va sur le parking, et j'avais une BX, une vieille BX pourrie. Je vous le coffre, je dis, voilà où j'en suis. Il dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est toutes mes affaires. Depuis 3 jours, je dors dans la voiture.
Saïd, on est début janvier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est pas vu dans ta vie?
Depuis qu'on s'est pas vu, je sais, on s'était vu quand la dernière fois.
On s'est vu en octobre.
En octobre, donc, je vais dire la réponse du juge m'interdisant d'accéder à l'emploi. Depuis, j'ai essayé de chercher du boulot, mais c'est impossible parce que ce juge exige que je travaille dans le métier du son, dans l'intermittent du spectacle. Et donc, c'est impossible à trouver. J'ai fait des recherches, des démarches. J'ai trouvé des boulots, mais qui ne correspondaient pas à ce que lui a réclamé à tout prix. Donc, j'ai pas pu bosser. J'ai passé les fêtes avec ma famille, ici à Châteauroux. Et on a convenu avec ma compagne que cette situation ne peut pas durer parce que, à partir du moment où j'intègre la formation à INIRAP Culture, donc d'Issoudun, il allait avoir des frais supplémentaires, qu'elle a amputé d'autant son budget par rapport à pour élever les enfants et trucs comme ça, et c'était pas possible. Donc, je suis parti. Depuis 2 jours, là, déjà. Je dors seulement là-bas en attendant de pouvoir trouver un logement et je sais pas comment le faire, quoi, parce que j'ai aucun revenu. Étant en formation, je peux pas travailler en plus de la formation. Ça, c'est interdit. Je ne peux pas non plus mettre ma famille en danger. Donc les deux solutions qui restent, j'essaye en ce moment de régler ma situation le mieux possible, mais si j'y arrive pas, il me restera deux seules solutions. La première, c'est la récidive. Et ça, il n'en est pas question. Ce serait donner gain de cause à ce juge d'application des peines, car c'est ce qu'il cherche, à mon avis. Et la deuxième solution, elle peut paraître un peu débile, mais c'est la seule pertinente qui me resterait, c'est-à-dire d'aller voir ce juge d'application des peines pour lui demander de révoquer ma conditionnelle. C'est-à-dire réintégrer la détention, réintégrer mon perpétuité, pour éviter d'être obligé de partir sur mes délires d'antan, quoi.
Mais ça, c'est vraiment pas envisageable de penser que tu puisses repartir en prison maintenant, que tu as regoûté à la liberté quand même.
Oui, mais le choix, il est où?
Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident, qui comprennent dans quelle situation un peu désespérée tu es?
J'étais absent de la vie active pendant 20 ans, donc ceux que je connais sont plutôt à l'intérieur des murs. Et quant à ceux qui sont à l'extérieur, j'ai pas renoué spécialement de contact, simplement avec les personnes qui s'en sont sorties, quoi. Et aller les taper tous les 15 jours, c'est pas un truc qui m'intéresse non plus, quoi. C'est pas comme ça qu'on construit quelque chose.
Demain, qu'est-ce qui se passe?
Bien, pour le moment, j'ai de l'essence encore dans la voiture, donc je vais pouvoir faire le trajet. Je vais essayer de rencontrer le plus rapidement possible. Donc, en l'occurrence, ce sera jeudi, cette assistante sociale, pour lui donner l'exacte réalité de ma situation. Puis ensuite, je vais voir ce qui va se faire.
Janvier 2005, Saïd, on réécoutait la scène un peu charnière où t'es confronté à un dilemme, récidivé dans la délinquance ou repartir en prison. Scène que tu racontais à Alain et qui a l'air d'être une scène charnière dans ta vie courte d'homme libre après la prison. Est-ce que tu as vécu d'autres scènes charnières comme ça depuis que tu es sorti?
Eh bien, en 2006, donc je me suis installé sur Paris. Mais pour pouvoir m'installer sur Paris, j'avais 2 contrats avec 2 productions, enfin 2 producteurs, pour travailler sur 2 longs-métrages, Le Grand Môn et Nils, Aurore de Nils Tavernier.
Et donc, j'ai vu mon juge d'application des peines à Châteauroux. Et je lui ai expliqué, pour trouver du travail sur Châteauroux, c'était impossible, j'arrive pas à en trouver. Par contre, j'avais trouvé deux contrats en tant que régisseur pour deux films. Et il fallait que je monte sur Paris. Et lui m'a dit, bah, il n'en est pas question, M. Remly, je suis tout jeune dans le métier, vous êtes un gros dossier, je ne peux pas vous permettre de repartir sur Paris comme ça. Je dis, bon, ben, si vous ne voulez pas me laisser partir sur Paris, je ne peux pas travailler, je ne vais pas récidiver, alors je vous demande de révoquer ma conditionnelle. Donc il l'a pris de haut, il m'a dit, mais ça ne va pas, vous êtes qui pour me dire que ce que j'ai à faire? J'ai dit, écoutez, vous faites comme vous voulez. Si vous ne m'autorisez pas à m'en sortir en montant sur Paris, vous ne voulez pas révoquer ma conditionnelle, je sors de votre bureau, tout de suite, je vais au commissariat, chez un esclandre pour rentrer là-bas. Donc le juge était estomaqué. Mais il dit, ouais, attendez ici, il était un peu énervé, il est parti dans un autre bureau, il est revenu 10 minutes après, on me dit, bah, écoutez, monsieur Remly, je vous autorise à aller sur le premier film. Je vais me renseigner, donc vous avez une autorisation provisoire, le temps du tournage, et je vais me renseigner. Si ce que vous m'avez dit est faux, ne serait-ce que dans la formulation, je vous fais replonger. Et je dis, bah, allez-y. Et du coup, j'ai pu travailler sur le Grand Môle. J'ai eu quelques heures pour le régime des intermittents. Ensuite, j'ai enchaîné sur Horreur de Denis Savernier. J'ai eu mes heures. Et j'ai pu attaquer le tournage de Tous coupables.
La première réponse judiciaire à un parcours de délinquance, elle est essentielle. C'est-à-dire que si nous, les juges, nous n'écoutons pas, nous ne regardons pas à la première fois, eh bien, c'est un rendez-vous manqué qui va avoir des conséquences terribles pour la suite. Les magistrats sont le reflet de la société dans son ensemble, à partir du moment où ce n'est pas leur métier que d'aller en prison. Ce n'est pas leur métier que de gérer ce monde qui est radicalement différent du lieu où eux-mêmes travaillent.
Saïd, pour le tournage de ton film, tu rencontres beaucoup de personnes, des avocats, des militants. Qu'est-ce que ça te fait quelques mois après ta libération de revêtir le costume du réalisateur et d'aller poser des questions à un juge?
Eh bien, bizarrement, ça m'a absolument rien fait.
Lui, c'est qui?
Lui, il s'appelle, c'est Serge Portelli, c'est vice-président de la 12e chambre correctionnelle de Paris. C'est un des rares juges qui va en prison. Là, d'ailleurs, ce qu'on voit à l'image, c'est la prison de la santé. Hein. Il y va en vélo, tranquillement. Et donc, il donne rarement des interviews. Et il a accepté, connaissant un peu mon parcours, il a accepté de répondre aux questions. Et donc, il a accepté aussi de me recevoir, non pas dans son bureau, mais à la 12e chambre correctionnelle. Pour une fois, je n'étais pas au banc des accusés. Il était à son bureau, et moi, j'étais en face de lui, et nous parlions, quoi. Mais ça m'a rien fait de franchement de particulier.
Je l'ai vraiment poussé à écrire. Je l'ai mis en contact et avec Patrick Rothman au Seuil et avec son frère Michel Rothman, qui produira un documentaire de Saïd. Donc voilà, j'ai joué un rôle en tous les cas dans un certain nombre de choses qu'il a fait au moment de la sortie. D'ailleurs, il a tenu toutes ses promesses. Le documentaire était aussi passionnant et a provoqué beaucoup de discussions.
Pourquoi ce titre Tous coupables?
Alors le but du film, pourquoi j'ai décidé de réaliser ce film, c'est que lorsque j'étais incarcéré pendant des années, chaque fois qu'il y avait un reportage ou un documentaire sur les prisons, c'était le sujet de conversation le lendemain quand on allait en promenade. Et il est vrai que tout le monde était écœuré tellement les réalisateurs étaient à côté de la plaque. Comment on pouvait imaginer les gens qui pensaient que ce qu'ils voyaient était la réalité, alors que c'était complètement débile. Et donc, je me suis dit, quand je sortirai, si je sors normalement, sans m'évader, je veux dire, si je sors normalement, je fais un documentaire pour décrire la réalité carcérale telle qu'elle est vraiment. Et ensuite, donc, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai fait une formation dans technicien son pendant quelques années. Et ensuite, la formation de régisseur cinéma et autres. Et la deuxième raison, Tous coupables, parce que pour les gens qui sont à l'extérieur, tous ceux qui sont en prison sont tous coupables. Ils ne sont pas là-bas par hasard. Je l'ai entendu 1 milliard de fois et pourquoi pas.
Et pour tous ceux qui sont en prison, les conditions de détention qui sont les leurs, ils sont condamnés à une peine d'emprisonnement, d'accord ? Mais tout ce qui dépasse l'emprisonnement pur et simple, c'est les gens qui sont à l'extérieur, c'est ceux qui votent, qui sont tous coupables. Donc tout le monde est coupable dans cette histoire. Quand on a fait le film, moi je connaissais le sujet bien évidemment, donc les questions que je pouvais poser aux uns et aux autres, j'en connaissais les réponses, c'est clair, et je savais qui il fallait interroger. Donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose, chaque fois qu'on tournait, on tournait 3 ou 4 heures, on est en salle de montage, et la chef monteuse et son assistante, ainsi que Guillaume le cadreur, regardaient, écoutaient, et me posaient des questions. Parce que pour moi, tout était évident. Maintenant, pour un regard extérieur au monde carcéral, il fallait savoir quelles étaient les attentes. Donc, il me dit, oui, mais ça serait bien de savoir pourquoi si, pourquoi ça, ce qui fait qu'à chaque fois, le synopsis évoluait, quoi.
Cécile, de Ciné Bleu, vous avez organisé un jour une projection du film « Tous coupables » de Saïd. Est-ce que vous pourriez d'abord me raconter, vous, votre découverte de ce film et ensuite la rencontre avec l'homme derrière le film ?
Ben c'est là où c'était intéressant. C'est, quand c'est de la fiction, c'est toujours pareil. On peut se permettre, en tant que spectateur, de mettre une distance par rapport aux faits. Là, quand on a la chance, nous, on avait la chance d'avoir Saïd aussi dans notre cinéma, on voyait le film, mais on savait aussi qu'après, il fallait rencontrer l'homme.
Je n'avais pas de costume d'ancien tolard ou autre, ça, pas question.
Pour nous, Saïd, c'est un homme comme tout le monde. Il a fauté, ok, on est d'accord, mais par rapport à nos lois françaises, il a payé, et pour nous, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Enfin, ça ne me posait pas plus de problèmes que ça.
Ni a priori, ni après qu'on l'ait rencontré. Hein. C'est sûr qu'on l'a regardé un peu différemment à partir du moment où il nous a dit qui il était, ce qu'il avait fait, et ce qu'il avait à la fois subi et encaissé. Compte tenu de tout ce qu'il a vécu, nous qui ne savons rien de tout ça, à part les 50 minutes qu'on a vues, on se dit que ça doit être quand même assez difficile de revenir sur ses pieds et de marcher droit. Ça ne doit pas être facile. Hein.
Quand on passe près d'une prison, maintenant on se dit peut-être que derrière ces murs, il se passe des choses difficiles. Peut-être qu'il y a des gens en souffrance. Qu'est-ce qu'on fait, nous ?
Quand j'ai commencé le documentaire, parce que tout le monde n'est pas dans le documentaire, j'ai rencontré une sénatrice du Parti des Verts qui s'appelle Halima Boumediene-Thiry, que j'ai accompagné à la centrale de Clairvaux, elle m'a demandé, hein. Elle me dit, je peux faire quoi pour toi ? Je dis, va dans une centrale et visite. Vas-y, vraiment. Elle me dit, jeudi, t'es disponible ? Bien sûr. Et on y est allé, donc, à la centrale de Clairvaux. Donc, elle avait son chauffeur, son garde du corps et moi. Et arrivé devant la prison, donc, je suis sorti, j'ai ouvert la porte. Et quand elle est ressortie quelques heures plus tard, elle était éclatée de rire. Hein. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive ? Elle me dit, ils m'ont demandé si c'était bien Remli qui était avec moi. J'ai dit, ouais, et alors ? Et j'ai dit, oui, il travaille avec moi, il est dans mon équipe. Et donc, les gardiens m'ont dit, c'est mieux qu'il soit avec vous que plutôt qu'il revienne, voilà, etc. Quoi. C'était assez marrant. Et une sénatrice, voilà, quoi, avec un tolard. Hein. Pourquoi pas, quoi.
Moi, mes copains, j'avais dit qu'il était réalisateur. Mais par contre, je sais pas c'est quoi son vrai métier.
J'avoue que j'ai fait beaucoup de mensonges parfois.
Parfois, on disait qu'il était écrivain, mais enfin, c'est vrai ça.
Où était votre père quand vous êtes né ?
Il était en prison. Mais je sais pas où.
Et moi, je sais pas. Moi, on m'a pas dit.
En fait, tu sais pas, on avait 3 ans, un truc comme ça.
Même pas. Pendant tout un temps, vous l'avez pas vu ?
6 ans. Parce qu'avant, on était en famille d'accueil.
Et depuis, donc maintenant, ça fait 6-7 ans que vous êtes réunis, parce que vous avez 13 ans. Est-ce qu'il vous a raconté sa vie ?
Tous les jours.
Presque tous les jours.
Et est-ce que vous avez l'impression que son passé, c'est loin de lui ?
On dirait pas, car quand il en parle souvent, on dirait que c'était hier.
Comment vous avez tenu à l'intérieur sans tous ces liens ?
Pendant une certaine période, c'était une période plutôt de révolte.
contre moi déjà, contre le système, contre un certain nombre de choses. Et puis ensuite, je me suis dit, de toute façon, l'être humain est censé s'adapter à toutes les situations, donc pourquoi pas moi ? Et j'ai essayé, tout au moins pendant les 10 dernières années, de construire une vie quand même intramuros, c'est-à-dire avec des projets, avec un certain nombre de choses. Et je pense que c'est ce qui m'a fait tenir le coup pendant toutes ces années. Parce que c'est vrai que ce que je pouvais voir autour de moi, au niveau de mes colocataires, c'était une catastrophe, quoi. Chacun attend un jour de sortir et il sous-vit, c'est-à-dire il ne survit pas, il sous-vit pendant toute cette période. Et il se contente de manger, de dormir, et ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'échéance, il n'y a rien.
Alors, est-ce que vous pourriez me raconter, Saïd, ce jour de la sortie où vous retrouvez non seulement la liberté, mais vos proches ?
Mais le jour de ma sortie, c'est bon, mes proches habitent à Lyon. Ma compagne et mes enfants sont sur Châteauroux et le projet conditionnel est sur Châteauroux. C'est un conseiller d'insertion et de probation donc, qui m'attendait à la sortie en voiture, qui m'a amené jusqu'à l'appartement de ma compagne. Et bon voilà, c'est-à-dire les enfants, c'est la première fois qu'ils me voyaient dans leur univers personnel. Donc ils ne savaient pas vraiment qui j'étais, même si je les avais rencontrés à plusieurs reprises auparavant. C'est arrivé peut-être un week-end où on a pu aller manger ensemble avec les enfants, mais c'est des moments volés, c'est pas. C'était au dépend d'autre chose, de toute façon.
Pour Saïd, la sortie de prison, c'était il y a 4 mois, autant dire avant-hier.
Un mot quand même sur tes fils que tu as retrouvés et qui sont des enfants du parloir, conçus au parloir.
Il leur a fallu leur expliquer quel était mon parcours. Et j'ai préféré leur expliquer mon parcours plutôt que ce soit d'autres qui le fassent.
Tu les as récupérés, ils avaient quel âge ?
Les grands, 13 ans. Voilà, ils avaient 6 et 5 ans, quoi. Je suis heureux de les voir grandir. Maintenant, je le suis moins par rapport à une rencontre amoureuse, par rapport à un certain nombre de choses.
Si on parle des femmes, Saïd, j'ai 3 prénoms en tête. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a sûrement d'autres. Nathalie, Pascal, Marcel.
Alors, Nathalie, j'étais marié quand j'étais en tôle. Et en 1994, au bout de 9 ans de mariage, ils ont décidé de divorcer, quoi. Elle m'a suivi pendant 9 ans, quoi, c'était bien, je trouve. Donc, une belle histoire, mais condamnation en perpétuité, il n'y avait pas, d'avenir. Ensuite, Pascal, que j'ai rencontré quand je suis sorti de prison, une femme superbe, que j'ai vraiment adorée, mais qui avait un fonctionnement qui était le sien, peut-être un petit peu trop psychorigide par rapport à mon parcours. Maintenant, Marcel, quand je l'ai rencontré...
On avait des amis communs sur Facebook, donc plusieurs fois il avait accroché à mes messages quand je discutais avec les uns les autres. Et puis bon, on s'est connecté sur Facebook, on s'est parlé longtemps. Et il m'a dit « si tu viens à Paris, passe me voir ». Sur Internet, on est allé sur Skype, donc ils m'avaient présenté les enfants, et c'était leur anniversaire. Donc je leur avais promis un cadeau, mais je ne savais pas quoi leur acheter. Donc je leur ai acheté des bouquins de Jules Verne. Mais bon, il fallait les porter, parce que pour les envoyer par la poste. Donc je suis allée au culot. J'ai sonné à sa porte à 8h le matin avec mes bouquins. Alors là, il était crado, parasé, tu vois, un peu... D'abord, il n'a pas osé ouvrir, il croyait que c'était un témoin de Jéhovah. Donc j'ai attendu qu'ils sortent, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et puis bon.
Comment est-ce qu'il t'a dévoilé son passé ?
Direct, sur la première fois qu'on s'est connecté, il m'a dit « connecte-toi sur Internet, va, tape Saïd Remli et tu vas voir
ouais. ». Ça t'a pas effrayé ?
Non, absolument pas.
Mais est-ce que vous en avez reparlé ? Tu découvres ça... biographie sur Internet, mais est-ce que vous avez parlé de ce qu'il a fait, de la prison ?
Oui, des longues soirées même, un peu, oui. Quand j'allais à Paris, oui. Il était très volubile, voilà, il fallait que ça sorte, et voilà, donc je sais tout, de A à Z, les moindres trucs, voilà.
Toi, t'as déjà des enfants ?
Oui, des grands-enfants.
Là, tu te retrouves avec un mari depuis 3 ans, ses 3 enfants.
Ouais.
Donc, comment tu vis cette nouvelle vie ?
Bien. Quelques petits moments de découragement, bon, parce que Saïd et moi, je suis un peu plus âgée que lui, donc voilà. Au début, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de se remettre dans le bain, les enfants et machin. C'était un peu fatigant, mais non, ça va, tout est rentré dans l'ordre. Puis il y avait, dans l'instant où ça se passe très bien avec mes enfants, moi, tu vois, j'avais un peu peur parce que, bon, quand j'ai annoncé qu'il allait venir vivre ici, les miens, tu vois, c'était pas très, très d'accord. Voilà. Ils avaient un peu peur, quoi. Et puis, tout compte fait, tout s'est bien passé.
Donc, il y a 4 ans de cela, elle est venue sur Paris, enfin, sur Arcueil. Et j'ai fait un choix.
Donc, tu as épousé Marcel il y a 3 ans.
Tout se passe très bien. Mes enfants et ses petits-enfants s'entendent très bien. Donc, il y a une vraie vie de famille, il n'y a pas de problème. Et après, je sais pas ce qui se passera, quoi. Voilà.
Tu parles beaucoup de tes 3 fils. Si j'ai bien suivi toute ton histoire, il y a aussi une fille quelque part.
2 filles. Mais rigole pas comme ça, quoi, ça arrive.
Il m'en manquait une, donc.
Parce que la plus grande de mes filles, Sandrine, elle est née quand moi j'avais à peine 18 ans. Et elle a eu un garçon alors qu'elle avait 17 ans. Je l'ai eu quand j'étais en cavale, sur une première affaire de braquage. Et la deuxième, c'est quand j'étais en perme, sur la même affaire de braquage. Donc, je sais pas, moi j'ai coupé les ponts avec eux, enfin avec elles plutôt. Toutes les deux avaient un père, donc c'est pas utile que moi j'apparaisse.
Mais elles savent qui tu es.
Ah ouais, carrément.
Ton papa, ta maman, tes frères.
Ouais.
Ils sont où ?
Alors pour faire court, moi j'ai été incarcéré en 84, ma mère est morte en 85, et il est appris par la rubrique nécrologique de Progrès-Lyon. Et mon père est mort en 1999, alors que j'étais à la centrale de Saint-Maur. Et quand j'ai appris sa mort, donc c'est mon ex-femme qui m'a appelé pour m'apprendre sa mort. Et donc quand je sors de la cabine, il y a un gradé, et il me fait, ouais, monsieur Rémy, je suis content de vous apprendre la bonne nouvelle. Vous pouvez téléphoner à votre père. Mais j'étais trop en colère et trop en peine.
J'ai toujours beaucoup d'admiration pour des gens qui souffrent et qui arrivent à s'en sortir. Ouais. Et ça, il faut du courage, de la ténacité, il faut le vouloir. C'est des gens qui ne subissent pas leur vie. Donc j'ai de l'estime pour eux. Et puis il a été libéré, et puis il a sorti son livre, et puis il m'a invité à la sortie de son livre, à la librairie. Puis alors c'est le titre qui m'avait frappé de son livre. Je ne souhaite cela à personne.
Ouais, c'est beau mec, hein.
Donc ça c'est quoi ?
C'est mon livre, on va dire, avec... ma tête en couverture, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a dans le regard ?
Bah, un sourire, je dirais. Non ?
Et il est où le sourire aujourd'hui ?
Non, il y a un sourire, puis une interrogation aussi, hein, je trouve. Hein. Une inquiétude. Le sourire, maintenant, il est peut-être à l'intérieur. Mais l'interrogation et l'inquiétude, elle est toujours là, quoi. Enfin, c'est pas moi qui ai décrypté non plus mon image. Hein. Mais c'est un peu l'impression que ça donne. Dernièrement, avec Alain et Cécile, donc, on avait organisé une projection débat à l'orgue, autour de Tous Coupables. Et eux, ils avaient trouvé une autre photo de moi, et qui n'était pas tout à fait la même, quoi. Où je donnais plutôt l'impression d'être quelqu'un, peut-être pas dangereux, mais où le sourire n'existait pas, quoi.
Alors Marcel, est-ce qu'il y a d'autres moments où tu sens que le passé le reprend, autre que...
les films. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui sont contenues, de la douleur, de la violence?
Beaucoup, beaucoup de violence, de douleur, de... même envers lui-même. Ici, c'est des fois difficile à contrôler, même. Voilà, donc quand c'est comme ça, je ferme la porte, je laisse. Et le lendemain, tout va bien. Faut laisser. Faut laisser et... Je pense que... Alors, quand vraiment ça va pas, tu vois, il cherche à joindre ses frères. Oui, il va voir mon fils, qui habite juste à côté, et voilà. Voilà, et l'autre, le remet bien en place, ça va. Ça va, ça va.
Donc Saïd, 10 ans après, un livre, 2 films, un resto, des rencontres, un mariage, tes enfants avec toi. Si on employait un jargon administratif, on dirait que tu as réussi ta réinsertion.
Là, ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que j'ai pas récidivé. Ça veut pas dire que je suis réinséré.
Ceux qui ont souffert en prison ne comprennent pas qu'en voulant se réinsérer, ils ne peuvent pas trouver de boulot. Et c'était un peu le cas de Caïd, peut-être jusqu'à maintenant et encore très difficilement. Et ça, je le déplore terriblement parce que vraiment, il y a des moments, je pense, où il avait envie de récidiver parce qu'il n'en pouvait plus. Et ça, c'est pas bien. La société doit être beaucoup plus consciente de ces gens-là et les prendre en considération. Je ne dis pas faire comme moi, les aider, peut-être un peu matériellement, mais les aider psychiquement et les aider à, surtout à leur trouver du travail.
Quel rôle, en fait, Philippe Zoumerov, jouez-vous dans la vie de Saïd aujourd'hui?
Écoutez, une chose très simple, depuis que je l'ai connu, j'avais envie de le mettre sur orbite. C'est-à-dire qu'il puisse en effet retrouver une vie normale avec sa femme, ses 3 enfants d'ailleurs qu'il aime beaucoup. Et tout ce qu'il fait, je crois que c'est beaucoup plus pour ses enfants que pour lui.
Qu'est-ce qui vous apporte, Saïd, vous, dans votre vie?
La satisfaction plus tard de son succès. Et c'est énorme. Vous savez, quand quelqu'un a été au gouffre le plus profond et retrouver une vie saine, normale, avec ses enfants, n'ayant plus ses problèmes matériels qu'il a depuis qu'il est sorti de prison, et ben si j'arrive à ça, ben ça sera une satisfaction immense.
Saïd, est-ce que aujourd'hui tu es un homme libre?
Libre, je suis libre depuis longtemps déjà, mais là où je me sens pas vraiment libre, c'est par rapport au compte que j'ai encore à rendre jusqu'à janvier 2010.
Est-ce que tu te sens libre avec les autres? Libre de parler ou de pas parler de ton passé? Libre d'assumer ce que tu es aujourd'hui? Ah oui, et hier?
Tout à fait. Par exemple, tous les stagiaires qui suivent le même stage que moi, donc tout le monde est au courant. Parce que j'expliquais au fil du temps, enfin je ne l'ai pas fait en amenant ça comme une carte de 8, ça aurait été déplacé déjà. Mais je l'ai fait quand l'occasion s'en présentait, soit à l'un, soit à deux, à trois autour d'entre eux. Et moi, non, là tous ceux que je côtoie savent d'où je viens, savent qui je suis, savent là où je vais aller aussi. Donc, non, je pense être bien intégré, si on peut dire c'est le terme, non. Non, ça va très bien. C'est bien.
C'est bien, c'est très bien, bien intégré, sourire dans la voix, homme libre. Ça, c'était tes mots, Saïd, en mai 2005, il y a 10 ans. On est en mai 2015. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Est-ce que tu es libre, Saïd?
De toute façon, je ne serai jamais libre. J'ai appris depuis ma sortie de prison que... les interdictions ne finissent pas avec la sortie de prison. Elles restent ad vitam aeternam.
Vous savez, on n'a jamais fini d'être libre. Hein. On n'a jamais fini d'être libre.
Et on ne peut pas dire à un moment donné, maintenant, moi, je suis libre. Non, c'est la liberté, c'est un combat difficile. Hein. Et on est fragile, donc on a besoin de... Il n'y a pas de liberté sans amour, hein, vous savez. Et donc, il a besoin d'être entouré, d'être compris, d'être soutenu. Je crois que quand on a vécu de longues années en prison, on reste fragile. On a toujours peur que les autres ne nous soutiennent pas. Voyez.
Vous le jugez ?
Oui, c'est ça.
Quand je rencontre des gens qui deviennent plus ou moins proches, j'étale pas mon passé devant tout le monde. Là où je bosse, il y a juste mon patron et une ou deux personnes qui sont amies, quoi, qui savent. Donc j'en ai parlé une fois à une jeune femme qui travaille avec moi, mais comme parce qu'elle, elle part. Là, elle est partie d'ailleurs, elle est partie parce qu'elle a accouché de son môme. Donc je lui dis, je te le dis parce que toi tu pars. Et là, elle m'a fait un beau compliment en me disant, en te voyant comme ça, sans savoir, j'aurais jamais imaginé. Et je dis, bah, je te remercie, c'est la meilleure preuve de réinsertion possible, quoi.
Si je te donne rendez-vous dans 10 ans, Saïd, tu auras 68 ans. Tu seras où? Tu feras quoi? Tu regarderas ta vie comment?
Eh bien, quand nous sommes rencontrés il y a 10 ans en arrière, mais les jumeaux avaient 3 ans, le petit dernier en avait 1 an seulement. Aujourd'hui, ils ont 11 et 13 ans. Dans 10 ans, ils auront 21 et 23 ans. Donc, à mon avis, ils n'auront plus besoin de moi depuis longtemps. Donc, du coup, je ne sais pas du tout ce que je ferai. Parce qu'une chose est certaine et sûre, c'est que je comprends complètement le phénomène de récidive parce qu'il me semble qu'il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'étais sauvé de ce risque par rapport à mes enfants. Si mes enfants n'étaient pas là, je pense que j'aurais pas replongé, mais je serais mort. Il y a des chances. Maintenant, dans 10 ans, mais je sais pas ce que je vais devenir. Il faut que je bosse simplement, que je continue d'écrire. Je sais pas.
Saïd, 10 ans après, avec Saïd Remli, sa femme Marcel et ses enfants, le cinéaste Bertrand Tavernier, l'industriel Philippe Zoumeroff, Monseigneur Jacques Gaillot, Cécile et Alain Foresto de l'association Ciné Bleu et Yves Lachkar, chef d'entreprise à Baisse-sur-Issole. Sur les docks, attachés de production Christine Bernard et Alison Sinard, mixage Eric Boisset, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède.